Il est midi 31. C'est le journal d'Antoine Mercier. Antoine, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La guerre en Syrie a fait 511 000 morts et disparus. C'est le nouveau bilan fourni ce matin par l'Observatoire syrien des droits de l'homme à trois jours du 7e anniversaire du conflit. Entretien publié aujourd'hui dans Le Monde. L'ancien président François Hollande estime que l'OTAN, les pays européens doivent faire davantage pression sur la Russie, y compris par la menace, dit-il, et sur la Turquie pour obtenir l'arrêt des dernières offensives dans la Ghouta orientale et dans l'enclave kurde d'Afrin en Syrie. Où on retrouvera tout à l'heure Franck Matovon, commentaire sur la situation avec Éric Biégala. Dans l'actualité française, la question des mineurs isolés, près de 25 000 d'entre eux sont arrivés en France l'an dernier. Les départements estiment ne plus avoir les moyens de les accueillir convenablement. Édouard Philippe reçoit aujourd'hui une délégation de l'Assemblée des départements de France, précision avec Charlotte Lalanne. Les résultats du premier tour de la législative partielle de Haute-Garonne, progression nette du candidat socialiste, ballotage favorable donc face au candidat de La République En Marche qui perd 13 points par rapport au mois de juin, analyse avec Stéphane Robert. Et puis au lendemain du congrès du Front National, querelle ce matin sur le changement de nom du parti en Rassemblement National. Marine Le Pen assure que ce nom de Rassemblement National a été déposé dès 1986, suivi d'Anne Fauquemberg. Et puis l'invité de la séquence interview, c'est Nicolas Bay, vice-président du Front National. Dans la dernière partie de la grande table, Olivia Jesbert.
Après Pop Théologie et Informatique Céleste, troisième essai dans la collection Perspectives Critiques des PUF, notre invité Marc Alizard explore aujourd'hui l'insolente joie canine. Et si, en fait, c'était lui le maître, l'animal qui a domestiqué l'homme, il nous en parlera, nous développerons ensemble dans la deuxième partie de la grande table.
511 000 morts donc et disparus, c'est ce chiffre avancé ce matin par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Nous sommes à trois jours du 7e anniversaire du début donc de cette guerre. Parmi ces victimes figurent plus de 100 000 civils et près de 20 000 enfants. Il y aurait 80% des victimes qui auraient été tuées par les forces du régime de Bachar al-Assad et leurs alliés. Donc malgré la défaite de Daesh, la guerre se poursuit encore sur plusieurs fronts. D'une part, cette offensive du régime syrien dans la Ghouta orientale. Ces dernières 24 heures, l'offensive est parvenue à isoler Douma, c'est la ville principale du dernier bastion rebelle aux portes de Damas, et à diviser donc cette enclave en trois après 21 jours de bombardements intenses. Et puis, au nord, les forces turques et leurs alliés ont atteint les faubourgs d'Afrin ce week-end, après plusieurs semaines d'une campagne militaire qui vise donc les milices kurdes des unités de protection du peuple. On est en ligne avec Franck Matovon, bonjour.
Bonjour Antoine.
Non loin d'Afrin, donc du côté turc, non loin de la frontière. Est-ce qu'on peut parler de début de succès pour cette offensive turque ?
Alors c'est prématuré hein, pour le dire, mais c'est vrai que l'armée turque a beaucoup avancé en une semaine. Elle reprend, elle libère, dit-elle, chaque jour de nouvelles localités dans ce canton d'Afrin. La Turquie bombarde massivement la zone autour de la ville d'Afrin, qui n'est plus approvisionnée en eau. Et là où nous sommes, à la frontière, à Kilis, on entend régulièrement l'écho de ces bombardements, même si les combats sont loin. Les milices kurdes ne contrôlent plus qu'un couloir dans le sud-est de l'enclave. Elles ont construit des tunnels et miné les principales routes. Au sol, les Turcs sont soutenus par leurs alliés rebelles syriens, l'armée syrienne libre, c'est-à-dire l'opposition plus ou moins modérée à Bachar el-Assad. Ces troupes se trouvent en effet dans les faubourgs d'Afrin. Elles combattent au sol les unités kurdes YPG, considérées comme terroristes, vous le savez, par la Turquie, car liées au PKK, le parti séparatiste kurde. Le président turc Erdogan a encore annoncé ce week-end un assaut imminent contre la ville d'Afrin et il ne compte pas s'arrêter là. Il veut ensuite poursuivre l'offensive vers l'est, vers Manbij d'abord, où se trouvent des forces spéciales américaines, puis vers Kobané, jusqu'en Irak. La Turquie affirme vouloir sécuriser toutes les zones frontalières. Ici, les médias pro-Erdogan sont en campagne et présentent cette bataille d'Afrin comme une bataille du bien contre le mal. Un moyen aussi pour le président turc de renforcer sa popularité.
Merci beaucoup Franck Matovon, donc à Kilis, à la frontière syrienne avec Gilles Gallinaro pour la transmission de votre correspondance. C'est sur le sujet syrien précisément que l'ancien président français François Hollande a choisi de donner sa première grande interview sur les questions internationales depuis son départ de l'Élysée. Entretien au journal Le Monde. Donc aujourd'hui, il estime que l'OTAN, les pays européens doivent faire davantage pression sur la Russie, y compris, dit-il, par la menace, mais aussi sur la Turquie pour obtenir l'arrêt des offensives donc dans la Ghouta orientale et dans cette enclave kurde d'Afrine en Syrie dont on vient de parler. Il appelle à étendre même les lignes rouges sur l'arme chimique en Syrie à tout bombardement délibéré de civils. Éric Biegala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors qui est d'abord visé peut-être par cette interview, François Hollande?
Avant tout les Occidentaux, Antoine. Les Occidentaux que l'ancien président français aimerait bien voir faire quelque chose en Syrie pour stopper les offensives en cours, vous l'avez dit, celle du régime sur la Ghouta orientale et celle de la Turquie sur le canton kurde d'Afrin. Dans l'un et l'autre cas, François Hollande propose une sorte de zone d'exclusion aérienne qui empêcherait les avions d'Ankara de bombarder les Kurdes et ceux du régime syrien et de la Russie de frapper rebelles et civils dans la Ghouta. Alors pour ce qui est de l'offensive turque, l'ancien président français l'estime d'autant moins justifié que les Kurdes d'Afrin n'ont jamais menacé la Turquie, explique-t-il. Et il évoque les pressions que l'OTAN, dont la Turquie fait partie, pourrait faire pour juguler l'offensive et particulièrement éviter les pertes civiles dues au bombardement aérien. Or, les pays occidentaux, notamment la France et les États-Unis, ont déjà d'une certaine manière signé un blanc-seing à Ankara sur le sujet. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni au lendemain du début de l'offensive turque à la demande de la France, n'avait nullement condamné cette offensive, appelant simplement Ankara à la retenue et évoquant, dans le même élan, là je cite Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, évoquant le droit légitime de la Turquie à se protéger. En clair, Ankara, s'estimant menacée par les Kurdes syriens, pouvait à bon droit les attaquer la première. On peine à imaginer comment les Occidentaux pourraient aujourd'hui faire pression sur Ankara pour renverser la vapeur, surtout au moment où les forces pro-turques sont parvenues aux portes d'Afrin. Pour ce qui est de la Ghouta orientale, et sachant bien qu'une résolution au Conseil de sécurité est impossible du fait du veto russe, François Hollande demande que des pressions, voire des menaces, soient clairement adressée à la Russie. Si la Russie est menaçante, elle doit être menacée, lâche par exemple l'ancien président français dans son interview. Mais là encore, on voit mal qui prendra le risque d'énoncer une telle menace explicite à l'endroit de Moscou. Moscou où l'on s'estime déjà, et depuis longtemps, intrinsèquement menacée par l'existence même de l'OTAN.
Merci beaucoup Éric Biegala, on salue l'invité de la séquence interview, Nicolas Bay, bonjour.
Bonjour.
Vice-président du Front National. Offensive turque, légitime, pas légitime, est-ce que vous comprenez aussi l'appel de François Hollande?
Moi je vois que François Hollande, a beau ne plus être au pouvoir, il continue d'avoir une attitude totalement irresponsable, de soutien finalement au groupe islamiste.
Enfin aux Kurdes, là, en l'occurrence.
Oui, mais en l'occurrence, ouais. Quand il était au pouvoir, il a soutenu contre Daesh un certain nombre de groupes islamistes. Et là, aujourd'hui, il s'en prend à la Russie, c'est à la Russie qu'on doit l'attitude efficace militaire décisive dans l'éradication quasiment achevée aujourd'hui de l'État islamique.
Donc vous êtes avec Erdogan aussi dans cette attaque.
Après, sur le Kurdistan, sur les Kurdes, on voit très bien que la Turquie islamiste prétendument modéré, est allié avec des groupes islamistes au sol, eux aussi prétendument modérés, mais qui ne le sont pas du tout, contre les Kurdes.
Et donc, vous êtes dans quel camp?
Clairement, du côté des Kurdes.
Voilà. Donc, comme François Hollande, alors, sur ce point.
Oui, sur ce point, mais je trouve que le parallèle qu'il fait avec la situation à la Ghouta n'est évidemment pas pertinent, du tout, parce que dans la Ghouta, le régime de Damas combat des groupes islamistes qui ont pris en otage des civils. Et vous savez, les guerres font toujours beaucoup de morts civiles. Quand les Américains, la coalition dominée par les Américains a libéré Mossoul, il y a eu énormément de morts civiles, personne s'en est ému.
Nicolas Bay, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Donc pour parler de la situation au Front National, ça nous amène à l'actualité française avec la question des mineurs isolés. Il y a près de 25 000 mineurs isolés qui sont arrivés en France l'an dernier, 2017. Le plus grand nombre est pris en charge par les départements, mais ces derniers se disent débordés. Ils estiment ne plus avoir les moyens de les accueillir convenablement. D'où cette réunion tout à l'heure à Matignon. Édouard Philippe va recevoir une délégation de l'Assemblée des départements de France. Charlotte Lalanne, bonjour.
Bonjour Antoine.
Avant d'évoquer donc les pistes qui sont étudiées par le gouvernement sur cette question précisément, un mot du phénomène. D'abord, d'où viennent-ils ces mineurs isolés et pourquoi finalement leur nombre augmente-t-il autant?
Alors, ils arrivent essentiellement d'Afrique subsaharienne. 95% d'entre eux sont des garçons. Depuis l'année dernière, leur nombre a plus que doublé, conséquence notamment de l'accord entre l'Union européenne et la Turquie sur les migrations en mars 2016. Accord qui a réduit l'afflux migratoire via la Grèce et reporté certaines arrivées via l'Italie et la France. Des jeunes qui fuient la guerre et la misère. 25 000 ont donc été pris en charge l'année dernière par l'aide sociale à l'enfance, une compétence du département. Et c'est là que cela coince, car les départements estiment qu'ils sont seuls à supporter la charge du dispositif. Aujourd'hui, l'État ne finance que la phase d'évaluation du mineur étranger dans la limite de 5 jours, soit 1 250 euros de participation. sur un coût total de 50 000 euros par jeune et par an, couvrant le logement, la nourriture, les frais d'éducation et de formation. Tout le reste est donc assumé par les départements pour une facture d'1,2 milliard d'euros l'année dernière.
Il y a un rapport qui a été remis le mois dernier donc au gouvernement et le Premier ministre va donc trancher tout à l'heure, sans doute parmi plusieurs scénarios de réforme proposés par ce rapport.
Oui, deux scénarios sont en fait envisagés. Le premier préconise un remboursement accru de l'État au département, mais des compétences inchangées. L'État mettrait donc davantage la main au portefeuille pour la phase d'évaluation des mineurs sur une base de 14 jours au lieu de 5 aujourd'hui, soit jusqu'à 106 millions d'euros pour 60 000 jeunes migrants. Le second scénario, lui, prévoit un transfert des compétences à l'État en matière d'évaluation et de mise à l'abri des mineurs. Pour ça, il devra donc construire des centres d'hébergement et mettre en place des plateformes interdépartementales d'évaluation pour un coût estimé à 125 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, la participation de l'État ne devrait pas dépasser les 132 millions d'euros. C'est l'enveloppe prévue dans le projet de loi de finances 2018. Mais l'Assemblée des départements de France prévient d'ores et déjà l'État qu'il faudra s'ajuster si le nombre de mineurs non accompagnés venait à augmenter encore.
Charlotte Lalanne, merci. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, est à Mayotte pour tenter de trouver une issue au mouvement de contestation contre l'insécurité qui secoue maintenant depuis 3 semaines ce département français de l'océan Indien qui est soumis à une très forte pression migratoire. Le bon déroulement de la rentrée va être l'enjeu principal de la journée, mais il y aura aussi ce point de fixation sur lequel la ministre des Outre-mer va tenter d'apaiser les inquiétudes de ses interlocuteurs. C'est la question de l'immigration et de la maternité de Mayotte en particulier, puisque le gouvernement a indiqué qu'il réfléchissait à un statut extraterritorial pour cette maternité, afin que les naissances très nombreuses n'y permettent pas obligatoirement d'obtenir la nationalité française. La porte-parole des Républicains, Laurence Saillier, s'est dit opposée ce matin sur LCP à l'idée donc du gouvernement de donner à cette maternité de Mayotte un statut extraterritorial. On l'écoute.
Moi qui suis une mère de famille et une femme, vous pensez que j'ai pensé quoi quand j'ai entendu cette proposition absolument invraisemblable? Ça veut dire quoi? Que les femmes qui voudront alors absolument que leur enfant ait la nationalité française vont aller accoucher à l'extérieur de la maternité? Parce que vous ne pensez pas que c'est ce qui va se passer? Vous pensez que si on applique cette règle, c'est-à-dire que si on applique cette règle uniquement pour une maternité, eh ben les gens iront accoucher autour? Il faut revoir le droit du sol à Mayotte. Dans son intégralité. C'est comme ça qu'on va résoudre le problème et c'est ce qu'a proposé Laurent Wauquiez. Comment vous voulez faire ça juste sur un établissement hospitalier? Enfin, c'est insensé. Pensez à toutes les conséquences qu'il peut y avoir.
Voilà, Laurence Saillier, c'était sur la chaîne parlementaire ce matin. La politique encore avec les résultats des partiels, législatives partielles de ce week-end en Guyane. Le candidat La République En Marche, le Naïc Adam, dont l'élection avait été invalidée en décembre, remporte le siège face à la candidate de la France, le candidat de la France Insoumise, qui s'appelle David Riemann, 50,64% des voix. Et puis il y a le premier tour de cette 8e circonscription de Haute-Garonne, hier, contexte de très faible participation, environ 35% de participation. Progression assez nette du candidat socialiste qui arrive en tête avec près de 39%. Ça fait quand même deux fois plus que son score de juin au premier tour. En ballotage favorable donc pour ce second tour dimanche face au candidat de La République En Marche qui lui perd 13 points par rapport à juin. On note aussi par ailleurs des tassements pour d'une part la France Insoumise et d'autre part pour le Front National. Stéphane Robert, voilà les principaux résultats. Oui. Bonjour.
Bonjour.
Bon, enseignement peut-être généraux à tirer de ces scrutins locaux.
Oui, déjà il y a une primo sortant qui s'est exprimée, hein, ce qui arrive assez souvent sur des scrutins partiels comme ça. En Guyane, le candidat En Marche, le Naïc Adam, élu en juin dernier, réélu, même chose en Haute-Garonne, pour le socialiste Joël Arrivagnac qui arrive en tête. Ensuite, une autre des raisons qui ont conduit à ces résultats, c'est que chacun des deux candidats était soutenu par les exécutifs locaux. En Guyane, le président de la collectivité territoriale, Rodolphe Alexandre, avait clairement affiché son soutien au candidat En Marche, tout comme en Haute-Garonne avec la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. C'est elle qui est derrière le socialiste Joël Arrivagnac. Elle est l'ancienne députée de la circonscription et elle est à l'origine d'un texte de soutien au candidat PS qu'elle a fait signer par plus de la moitié des maires du secteur. Dans ce type de scrutin, si vous êtes soutenu par un président de département ou de région, c'est un vrai avantage. Ils activent leur réseau, ce qui a nécessairement un effet en termes de mobilisation de l'électorat. Par ailleurs, pour la Haute-Garonne, notez que c'est une circonscription socialiste depuis toujours. Elle n'était même pas, elle avait même pas basculé en 1993, année où les socialistes avaient perdu beaucoup, beaucoup de circonscriptions. Maintenant, au-delà de ces considérations, il faut voir que ces deux résultats ne sont pas de mauvais scrutins pour La République En Marche et pour Emmanuel Macron. Au contraire, En Guyane, c'est le marcheur qui est réélu malgré le fait qu'il ne bénéficie plus de la dynamique générée par l'élection présidentielle. Et en Haute-Garonne, le candidat en marche, Michel Monsara, lui non plus ne bénéficiait plus de la dynamique de l'élection présidentielle, ce qui explique qu'il perde 13 points. Mais il fait plus que sauver les meubles en se qualifiant pour le second tour, car lui n'a pas de passé politique et pas de réseau. La très mauvaise nouvelle, en revanche, c'est pour la France Insoumise, qui avait beaucoup investi sur ces deux scrutins. Jean-Luc Mélenchon avait tenu un meeting à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, et il avait passé une semaine en Guyane. Les résultats sont extrêmement décevants, et ils montrent que la France Insoumise n'arrive pas à s'imposer comme une force d'opposition crédible à Emmanuel Macron. Pas plus d'ailleurs que le Front National, en net recul ce week-end en Haute-Garonne, avec un score de 11%, ce qu'on avait déjà pu constater lors des scrutins précédents.
Merci Stéphane Robert. Donc vous nous amenez au sujet qui suit, c'est-à-dire le Front National au lendemain de son congrès, avec d'abord cette querelle sur le changement de nom du parti en Rassemblement National. Madame Le Pen annonce ce matin son intention de poursuivre en justice le président du parti de droite gaulliste qui accusait hier la formation d'extrême droite d'avoir utilisé le nom de son mouvement pour changer son image. Elle assure que ce nom, donc, de Rassemblement National a été déposé dès 1986. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
En tout cas, ça traduit symboliquement une sorte de réancrage du mouvement sur ses fondamentaux 1986.
Oui, alors cette polémique sur le nouveau nom proposé hier aux adhérents, elle prend de l'ampleur depuis hier. Igor Curet, qui est le président de ce micro-parti de la droite gaulliste, qui porte aussi le nom de Rassemblement National, eh bien, il se dit prêt à défier Marine Le Pen sur le plan judiciaire. Igor Curet qui affirme être le véritable propriétaire de la marque Rassemblement National.
J'ai fait déposer un INPI. Derrière, j'ai acheté le nom de domaine. On a construit un site. On a une page Facebook. On a un Twitter. Vous allez sur le Twitter du Rassemblement National. Marine Le Pen, officielle Twitter, s'est abonnée sur nous. Donc elle ne pouvait pas ignorer que ça existait.
Démenti ce matin de Gilbert Collard, le député du Gard était sur Europe 1 avec Patrick Cohen.
On a une antériorité de dépôt.
Il y a une antériorité de dépôt. Écoutez, on va vérifier. Ouais, c'est un communiqué publié par...
Je l'ai vu, mais il m'a été signalé immédiatement qu'on avait une antériorité de dépôt.
Alors, cadrage ce midi de la communication du Front National. En fait, la marque serait actuellement détenue par un des conseils du parti après tout un travail juridique pour en récupérer les droits. Rassemblement National serait en fait une petite association politique en cours de dissolution. Et cette cession serait également en cours de publication à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Quoi qu'il en soit, ce nom, Rassemblement National, remonte à bien plus loin qu'à cet imbroglio juridique. En 1986, Jean-Marie Le Pen l'avait utilisé pour sa plateforme législative, le Menhir, qui s'était probablement inspiré de son mentor Jean-Louis Tixier-Vignancourt. Le candidat d'extrême droite s'était présenté sous cette étiquette à la présidentielle de 1965. Un nom qui semble en tout cas le symbole d'un retour en arrière à une ligne plus traditionnelle centrée sur l'identité, peut-être aussi un peu décalée par rapport au discours sur la normalisation.
Merci Anne Fauquemberg, et nous revenons donc vers notre invité Nicolas Bay, vice-président du Front National. Est-ce que vous êtes sûr d'abord de disposer vraiment de ce nom?
Oui, toutes les formalités juridiques ont été faites et en réalité, nous avons en effet acquis la propriété d'une marque qui a été déposée antérieurement. Oui. Et donc, il y a évidemment aucune
difficulté. Mais à part Jean-Marie Le Pen?
Non, mais Jean-Marie Le Pen n'avait pas déposé, je crois, ma connaissance en 86.
Mais ça a été déposé au nom
de
qui?
Les dépôts en question sont postérieurs, mais enfin, tout est en règle. Et donc, les adhérents du Front National vont pouvoir se prononcer sur ce changement de dénomination qui correspond à la réalité de ce que nous sommes aujourd'hui. C'est le Front National. On en est fiers, il a une histoire et il a fait preuve d'une lucidité très grande sur des sujets fondamentaux, notamment la question migratoire, la question de l'Union européenne, mais ça correspond à un mouvement d'opposition qui a longtemps d'ailleurs eu un socle électoral modeste. Aujourd'hui, on est un grand mouvement politique, on a rassemblé 11 millions de voix à la présidentielle. Donc le rassemblement nous définit mieux dans ce que nous sommes aujourd'hui et dans ce que nous voulons pour la suite lors des élections européennes et lors des futures batailles électorales.
Ça fait pas trop ancien monde, je crois pas, on entend
rassembler autour de nous tous ceux qui croient dans la nation. Vous savez, les Français ont décidé d'une vraie recomposition politique en 2017. En choisissant Emmanuel Macron face à Marine Le Pen à la présidentielle, ils ont fait voler en éclats le vieux clivage entre la droite et la gauche. Et donc c'est une responsabilité que nous avons. C'est ce que les Français attendent de nous, de faire ce rassemblement dont l'ossature, bien sûr, sera le Front National, mais qui pourra agréger des personnalités, des mouvements qui croient dans la nation, veulent combattre l'immigration massive, veulent défendre notre identité. C'est le défi des années à venir. L'identité, c'est pas un combat d'arrière-garde. Au contraire, veulent défendre la souveraineté comme un moyen de retrouver la maîtrise de notre destin, défendre le pouvoir d'achat, une politique sociale ambitieuse.
Voilà, Anne Fauquemberg qui a assisté à votre congrès.
Nicolas Bay, vous y voyez plus clair ce midi sur ce qui s'est passé dans un bar de Lille ce week-end avec Davy Rodriguez, le numéro 2 du FNJ.
Oui, enfin, au niveau plus clair, on a vu une vidéo, en effet, où des propos absolument scandaleux sont tenus. Il est assez difficile, quand on la visualise, de déterminer qui tient ces propos. Si c'est lui qui les a tenus, c'est évidemment scandaleux. Il a été suspendu.
Ce sont des propos racistes.
Et il sera exclu. S'il a paraissait que finalement c'est pas lui qui les a tenus, eh bien à ce moment-là ce serait différent. Mais en tout cas, les propos, nous les condamnons sans ambiguïté.
Et vous, vous avez un point de vue, là, vous avez vu la vidéo, vous l'avez vu la vidéo?
Oui, je l'ai vu rapidement.
Et donc vous dites quoi, vous?
Bah non, mais moi je suis pas expert, excusez-moi. Mais en tout cas, je crois que c'est très anecdotique. Il y a un grand mouvement politique qui a tenu son congrès à Lille, ça c'est l'information principale. Voilà, le fait qu'il y ait des escarmouches et des propos scandaleux tenus à la sortie d'un bar à minuit la veille, je pense que ça n'a pas un grand intérêt politique.
Anne Fauquemberg.
Pourquoi vous avez été évincé de la vice-présidence du FN ce week-end lors du congrès, alors que vous êtes un partisan de l'attachement aux racines, aux valeurs traditionnelles?
Non, mais je crois que là on mélange un peu tout. Il y a un bureau exécutif dont je faisais déjà partie avant et qui existe toujours et dont je fais toujours partie, qui a été enrichi par deux ou trois personnalités supplémentaires, trois en l'occurrence, et donc c'est la direction du mouvement qui est autour de Marine Le Pen aujourd'hui. Voilà.
Devenir un parti de gouvernement, c'est l'objectif de Marine Le Pen. Elle a beaucoup répété ce week-end. Et pourtant, vous invitez lors de ce congrès l'ex-conseiller stratégique de Trump, Steve Bannon, qui n'a pas résisté, lui, à l'épreuve du pouvoir. En quoi il est un modèle pour le Front National?
Mais on ne l'a pas invité comme un modèle, mais comme une contribution extérieure. La contribution de quelqu'un dont tout le monde s'accorde à dire qu'il a été non seulement l'instigateur, mais sans doute l'un des principaux organisateurs de la victoire de Donald Trump aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce que dit Steve Bannon. Ça ne veut d'ailleurs pas dire qu'on est d'accord avec tout ce que dit ou fait Donald Trump. Mais on fait simplement le constat que la campagne victorieuse de Trump, elle s'est fondée en politique intérieure, notamment, c'est peut-être des points avec lesquels on est d'accord avec lui, sur la défense de l'identité, la lutte contre l'immigration clandestine, les protections économiques qu'il met en œuvre et qu'on serait bien inspiré de mettre également en œuvre pour défendre l'économie française aujourd'hui, défendre la sécurité, défendre le peuple américain.
Donc c'est inspiré de Trump quand même.
Non, mais on n'est pas inspiré de Trump, parce que c'est des idées qu'on a toujours défendues. Bon, mais c'est intéressant d'avoir un retour d'expérience, comme on dit, de quelqu'un qui a été au cœur de la victoire de Trump et qui a mené ce combat-là. Ensuite, on a eu l'occasion de l'exprimer votre antenne et dans d'autres occasions.
Et vous assumez l'image...
Par exemple, sur la politique étrangère, on n'est pas forcément d'accord avec Trump.
Et vous assumez l'image sulfureuse du personnage qui a été écarté par Donald Trump après les émeutes de Charlottesville ses positions suprémacistes.
Bon, il a totalement contesté avoir tenu ses positions, en l'occurrence, mais il a été invité à s'exprimer. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas adhérent du Front National et nous ne sommes pas des soutiens de Steve Bannon. C'est simplement enrichissant sur le plan du débat politique. C'est quand même extraordinaire de voir ceux qui, en toutes circonstances, donnent des leçons de démocratie, ne pas supporter qu'il y ait des débats et des discussions. Vous savez, j'étais en Italie soutenir notre ami Matteo Salvini, qui a obtenu de très bons résultats juste avant les élections italiennes. Là, sur place, il y avait des représentants de différents courants politiques italiens qui s'expriment dans les meetings des adversaires. Bah, c'est une belle leçon de démocratie.
On va dire bonjour à Marc Alizard, l'invité de la dernière partie des Cantables, qui se recule un petit peu. Venez près du micro. Non, parce que je dis ça parce que Steve Bannon a dit que les journalistes étaient les chiens du système aussi. Hein, c'est bien ça, Nicolas
Bay.
Les médias en général. Ça veut dire que cette appellation de chien, qui est le titre de votre livre dont on parlera tout à l'heure, est toujours une appellation un peu...
C'est une insulte dans toutes les langues depuis toujours, donc je ne suis pas très étonné. Ce qui est plus marrant en parlant de Steve Bannon, c'est que Donald Trump est le premier président depuis 100 ans à ne pas avoir de chien à la Maison-Blanche, et ça crée un grand émoi aux États-Unis.
Et c'est mauvais signe pour vous ?
J'imagine que Donald Trump doit penser que les chiens sont des losers, donc comme il ne les a pas dans son cœur, finalement ils n'ont pas leur place non plus à la Maison-Blanche.
Nicolas Bay, vous n'avez pas de chien, vous ?
Non, j'ai pas de chien, non.
Ah bon.
Mais ça me fait peut-être un point commun avec Trump.
Vous en êtes où, Nicolas Bay, avec les stratégies d'alliance? Vous avez l'air d'y tenir. Et pour l'instant, on ne voit pas vraiment de résultats concrets. Elles sont où, les alliances?
Normal que vous ne voyez pas de résultats concrets parce qu'on est à 15 mois des élections européennes. Et c'est dans cette perspective-là que nous travaillons. Des alliances en France avec ceux qui croient dans la nation. Ils sont pour un certain nombre dans l'orbite des Républicains. C'est aussi Nicolas Dupont-Aignan. Nous y travaillons. Nous avons des discussions. Les choses avancent. Je vous remercie. Et pour le reste, à l'échelle européenne, nous travaillons aussi avec nos alliés, ceux qui sont dans le groupe que je co-préside au Parlement européen, 8 nations. nationalités différentes. C'est la démonstration qu'on est attaché à l'Europe des nations et qu'on n'est pas anti-européen, comme le disent bêtement nos adversaires. Mais aussi, nous, évidemment, nous travaillons avec d'autres qui vont entrer au Parlement européen, peut-être de manière assez spectaculaire l'année prochaine, et qui sont dans d'autres pays qui ne sont pas encore représentés dans notre groupe.
Merci beaucoup, Nicolas Bay. Donc, vous n'êtes plus vice-président, c'est ça ? J'ai compris.
On est tous membres du bureau exécutif.
Qu'est-ce qu'il faut dire alors ? Voilà. Comment je dois dire ?
Eh bien, c'est la direction du Front National, tout simplement.
Bon, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Averses, orages et vent au menu météo, la bordure méditerranéenne reste à l'écart avec des éclaircies plus larges, des températures de 10 à 17 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal, 18h, avec Aurélie Kiffer.